Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique, comme toujours, mon complice Léo et votre serviteur André Satenza. Aujourd'hui, présent au studio Gisèle Halimi, Madame Pascale Weiss, déléguée régionale du syndicat d'employeurs Nexem et en même temps directrice générale de l'Institut du Travail Social Erasme. Madame Weiss est déléguée régionale du syndicat Nexem pour la convention 66, faut-il le rappeler. Et également présent au studio Gisèle Halimi, Monsieur Philippe Calmette, président de la FISAF, et administrateur au même syndicat d'employeurs Nexem. Madame Weiss et Monsieur Philippe Calmette, soyez les bienvenus. J'ai l'impression que rien ne va plus au syndicat Nexem. Une sorte de colère sourde monte des adhérents qui sont de plus en plus critiques, me semble-t-il. Le dialogue social avec les organisations syndicales est à l'arrêt, l'inflation continue, le pouvoir d'achat des salariés du secteur qui étaient déjà en difficulté. Souvenez-vous, nous avons abordé cette question à l'antenne, les oubliés du Ségur, la convention unique, convention 66-51, ce n'est pas sûr qu'elle puisse voir le jour dans les mois qui viennent. Certains disent peut-être qu'il faut renverser la table. Pour y voir clair, nos deux invités, Madame Weiss, pour commencer par vous, vous avez pris l'initiative avec la délégation régionale Occitanie-Nexem de lancer un tract, une communication aux adhérents. Stop, la stratégie de votre syndicat n'est pas claire, on ne sait pas où nous sommes. On navigue à vue. Pourquoi cette initiative ? Est-ce que vraiment les adhérents en ont assez de cette stratégie ?
Bonjour Andrés, merci pour votre invitation. Alors oui, j'ai pris l'initiative. Alors c'est pas Pascale Weiss personnellement, mais bien Pascale Weiss, déléguée régionale Nexem, élue par ses pairs, hein, puisque je vous rappelle que pour être délégué, il faut qu'on soit élu par les associations adhérentes à Nexem. Donc pour Occitanie, je représente avec 5 autres collègues qui sont Stéphane Pareil, Nicolas Gadoni, Sébastien Pommier, Marc Pimpeter et Alain Combe, donc sur la délégation régionale à Occitanie. Et on a décidé d'envoyer une carte postale à notre conseil d'administration et président, Monsieur Alain Raoul de Nexem, pour lui dire qu'on avait déjà les méprisés, les oubliés du Ségur, et que maintenant, on a les méprisés de la branche, puisqu'il a été décidé par Nexem de faire une augmentation bas salaire. Mais là, tout le monde était d'accord avec ça, même si cette augmentation bas salaire, finalement, vient tasser les grilles. Et il se trouve que il y a des salariés qui sont là depuis plus de 10 ans qui vont avoir le même salaire que des personnes qui rentrent aujourd'hui dans notre secteur. Mais la décision qui nous a mis très en colère et qui a mis en colère l'ensemble des adhérents d'Occitanie, c'est qu'il a été décidé par Nexem d'augmenter de 1,3 comme la fonction publique, les salaires. Mais à la différence de la fonction publique, on augmentera les salaires que jusqu'à 41 750 euros bruts par an. C'est-à-dire que tous les gens qui gagnent plus de 3 500 euros par mois n'auront pas d'augmentation de salaire.
Alors qu'ils subissent eux aussi l'inflation, il y a des difficultés à boucler les mois, et ce sont souvent des cadres intermédiaires qui sont en première ligne et qui ont toujours été en première ligne pour soutenir nos associations. C'est ça ce que vous dites ?
Tout à fait. Et que on s'était déjà insurgé une partie des adhérents en disant, quand la décision avait été prise, d'accepter du gouvernement qu'une partie de nos salariés soient revalorisés avec la prime Ségur. On avait déjà dit que cette position n'était pas possible. On avait pu entendre les explications du syndicat qui avait dit « mais si on n'avait pas pris la somme, certains ne l'auraient pas eu, alors personne n'aurait eu d'augmentation ». On avait dit ça, c'est une fois, mais pas deux. Et là, contre toute attente, il recommence, une fois de plus, avec des décisions d'un conseil d'administration. Ben, on s'interroge parce que nous, cette carte postale, on l'a envoyée non seulement au président, mais aussi au conseil d'administration. Puisqu'en fait, adhérents d'Occitanie, en tout cas je parle pour l'Occitanie, nous ne nous sentons pas représentés aujourd'hui au sein de Nexem.
Et donc vous demandez des explications régulièrement vos instances.
On demande des explications, mais on n'en a pas, cher Andrés, et c'est d'ailleurs ce qui me met en colère, parce qu'il y a par moments, j'ai l'impression que nous sommes, oui certes, en Occitanie, nous sommes des paysans, on le sait, hein. Nous ne sommes pas des Parisiens, l'apparatchik parisien, mais je rappelle quand même que nous avons eu Jérôme Bail et que même notre ministre, Gabriel Attal, a pu se déplacer pour voir Monsieur Bail, à qui il a apporté quand même des réponses. Nous, suite à notre tract, personne n'a daigné. Personne n'a daigné nous répondre. Ou nous appeler, puisqu'ils ont tous nos numéros.
Alors, je pense qu'il est peut-être nécessaire... Et Monsieur Philippe Calmette, président de la FISAF, pourra nous tracer un peu l'historique, parce que j'ai souvenir que dans le secteur, au moment de la crise, à la sortie du Covid, de cette pandémie, il y a eu du Ségur, ministre Monsieur Véran, il y a eu du Ségur 1, du Ségur 2, il y a eu ensuite la Fourcade, la Fourcade 1, la Fourcade 2. Tout cela a été, pourrait-on dire, fragmenté, segmenté, on ne sait pas pourquoi, on aurait pu faire une augmentation. Il y a eu des crédits qui sont arrivés dans le secteur, certains disent beaucoup d'argent dans le secteur, comme jamais, mais quand même, toujours là, beaucoup d'oubliés dans le secteur, les présidents et les présidentes, directeurs et directrices en difficulté. Au moment où je vous parle, on sait qu'aujourd'hui en Occitanie, beaucoup d'EHPAD dits associatifs sont en déficit. On ne sait pas comment on va résoudre cela. Faut-il fermer les EHPAD? Faut-il les transmettre peut-être au monde dit capitalistique? Cela demande une explication un peu historique. Alors, Monsieur Philippe Calmette, comme président de la FISAF, mais avant de répondre à cette question, la FISAF, vous pouvez nous dire ce que c'est que votre fédération?
Merci à Esprit Occitanie de l'invitation, tout d'abord. C'est avec grand plaisir que j'y ai répondu favorablement. Alors, la FISAF est une vieille dame, puisque c'est une fédération qui va fêter dans 2 ans son centenaire. C'est une fédération reconnue d'utilité publique qui, aujourd'hui, regroupe l'ensemble des établissements et des services de France, en direction des personnes et en accompagnement des personnes qui ont un handicap sensoriel ou qui ont des troubles du langage. Ça représente 8 à 9 000 professionnels qui, chaque jour, sur notre territoire national, accompagnent 20 000 personnes en situation de handicap sensoriel. Ce qui est intéressant, en 2 mots, c'est de souligner l'évolution de l'activité de ces établissements. On le sait tous, on a à l'esprit les établissements pour personnes ayant un handicap sensoriel, aveugle ou sourde. On a à l'esprit, on a l'image de ces établissements enfermés derrière leurs murs. Or, aujourd'hui, ce qui caractérise l'activité de ces associations, de ces établissements, c'est justement l'ouverture vers la cité, vers les personnes qui sont en situation de handicap ou qui, avec l'âge, sont atteints par un handicap. Eh bien, les professionnels, les services, les prestations sont depuis maintenant de nombreuses années, mais il y a une accélération actuellement, sont en train de sortir des établissements pour aller travailler au domicile, dans des centres de santé, dans des pôles de ressources, pour accueillir toutes les populations qui sont touchées et qui ont besoin d'un accompagnement quand il y a un problème de vision qui apparaît avec l'âge ou suite à un accident, quand il y a un problème de surdité également qui apparaît au cours de la vie. Donc l'image actuelle des adhérents de la FISAF, c'est l'image que l'on doit avoir, et c'est une évolution récente qui remonte à une dizaine d'années, c'est celle d'associations et de professionnels qui sont dans la vie des personnes en situation de handicap ou en situation de déficience sensorielle. On intervient au domicile, on intervient en proximité des personnes. Ce sont des professionnels qui sont dans la vie de tous les jours.
Et donc, c'est combien d'adhérents dans votre fédération ?
C'est 280 associations qui sont adhérentes pour la France entière. 8500 professionnels et 20 000 personnes accompagnées quotidiennement.
Merci pour cette rapide présentation. Toujours important de situer où nous sommes. Mais par la même occasion, de façon concomitante, vous êtes administrateur Nexem et vous participez aux débats, aux décisions du conseil d'administration. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous dire rapidement que s'est-il passé sur cette question des augmentations de salaires dans le secteur, le Ségur 1, le Ségur 2, la fourcade, etc. Pourquoi cela ? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de votre propre syndicat ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une succession d'échecs sur les salaires, mais succession d'échecs également sur les partenaires sociaux qui, petit à petit, quittent la table. Et on ne peut pas travailler, me semble-t-il, dans notre secteur sans un dialogue apaisé.
Oui, malheureusement, c'est plus qu'un sentiment. C'est une réalité. Et l'amertume, le ressentiment qu'exprimait votre autre invité est assez largement partagé par l'ensemble des associations du secteur. Alors, pour comprendre cette amertume, ce ressentiment, je crois qu'il faut remonter un peu en arrière et situer le moment d'aujourd'hui dans son contexte récent des 3-4 dernières années. Le point de départ de la crise actuelle, parce qu'il y a vraiment une crise dans le secteur, c'est la crise sanitaire. Nos associations, les professionnels des associations... Alors, il faut rappeler que nos associations qui interviennent dans le champ social et médico-social sont des associations qui gèrent des établissements pour personnes handicapées, qui gèrent beaucoup d'EHPAD, et qui accompagnent quotidiennement ceux d'entre nous qui sont en situation de fragilité. Les personnes âgées, dépendantes, les personnes handicapées.
Les plus fragiles et les plus vulnérables de la société sont souvent dans nos établissements.
Nous accompagnons 15% de la population française qui est aujourd'hui en difficulté et qui est en situation de fragilité. Les jeunes qui relèvent des politiques sociales de l'enfance, de l'ASE, c'est 370 000 jeunes. Les personnes en situation de handicap. C'est près de 500 000 personnes qui sont accueillies dans les établissements et accompagnées dans les services. Les EHPAD, que tout le monde connaît. Donc, on parle bien de ces professionnels-là, ceux qui accompagnent ceux d'entre nous qui sont les plus fragiles, qui sont en situation de désarroi ou qui sont désarmés quand arrive une crise comme la crise sanitaire. Donc la crise sanitaire a déferlé sur le pays, dans les conditions que chacun connaît, et les professionnels de l'accompagnement ont été, comme les professionnels de l'hôpital, en première ligne pour protéger, pour accompagner les personnes fragiles de l'agression de ce virus. Et les résultats, objectivement, ont été au rendez-vous. Il y a dans les établissements de personnes handicapées, prenons cet exemple-là, dans les foyers, dans les maisons d'accueil spécialisées, il y a eu des cas de Covid, il y a eu des cas de décès, mais dans l'ensemble, et très majoritairement, tout le monde s'accorde à reconnaître que les professionnels ont bien fait leur boulot.
Tout le monde était au rendez-vous.
Tout le monde était au rendez-vous, présent sur le terrain, et tous les professionnels.
Quand on dit tous les professionnels, c'est important, c'est... Infirmiers, infirmières, éducateurs, maîtresses de maison, cuisiniers, hommes, secrétaires, tout le monde était prêt. Personne n'était confiné.
Chef de service,
et chef de service
directeur,
et directeur.
Direction générale. Les directeurs généraux, les directeurs dont on pourrait penser a priori qu'ils ont été éloignés du contact, c'est tout l'inverse.
Tout l'inverse.
Ils passaient leur temps à trouver des solutions, à travailler avec l'hôpital, à travailler avec le domicile des personnes, à travailler avec la médecine de ville pour construire des réponses qui permettaient de protéger les personnes. Les personnels techniques qui sont exclus de la revalorisation des 183 euros, ce sont les personnels qui étaient chargés de l'hygiène dans les établissements et dans les services. C'était les personnes qui astiquaient les poignées de porte...
Pour enlever le virus.
Toute la journée pour enlever le virus, qui était là le matin tôt, qui partait tard le soir. Donc, tout le monde a mouillé la chemise.
Les cuisiniers. Qui servaient, bien
qui
entendu.
Servaient
voilà.
Il n'y a personne dans les établissements et dans les services qui accompagnent ces personnes en situation de fragilité qui n'ait été directement et fortement impliqué dans... l'action pour protéger contre ce virus. Et à l'issue de cela, de cette période, les pouvoirs publics distinguent, dans un premier temps, les professionnels du sanitaire, hospitalier, des professionnels de l'accompagnement. Professionnels de l'accompagnement, c'est nous, ce sont ceux que nous décrivons. C'est 950 000, 1 million de personnes.
1 million de personnes.
Hein, les professionnels hospitaliers du soin, c'est 1 million 200 000 personnes professionnelles. Le monde de l'accompagnement, les éducateurs, les infirmiers, les services dont on parle, c'est 1 million. Donc, on voit qu'on est sur des enjeux, ça compte. Bon. Bon. Donc, première erreur, on peut parler d'erreur. Dans la reconnaissance que les pouvoirs publics peuvent apporter à ceux qui se sont battus contre le virus, première erreur, les pouvoirs publics distinguent entre le monde sanitaire...
Et le monde du social et médico-social.
Et le monde du social et du médico-social. Et il faut que le monde du social et du médico-social se batte pour obtenir une reconnaissance que nous finissons par obtenir avec retard, et c'est ce que vous avez appelé la mission Lafourcade, qui... à la demande de Jean Castex, Premier ministre de l'époque, se penche sur notre secteur pour faire des propositions au gouvernement. Les propositions qui sont faites au gouvernement et retenues par le gouvernement font une deuxième erreur, c'est de distinguer dans les métiers de l'accompagnement ceux qui, soi-disant, auraient été en première ligne, et ceux-là, on leur octroie une indemnité de 183 euros mensuels, et ceux... qui ne sont pas dignes, entre guillemets, de recevoir cette indemnité. Donc on se retrouve avec une fracture au sein des professionnels de la santé, au sens large du terme,
entre au sein même...
les professionnels du sanitaire et une deuxième fracture au sein même du monde médico-social.
Mais monsieur Calmette, que fait le syndicat d'employeurs Nexem, qui doit défendre les intérêts... de vos adhérents, qui doit défendre ses propres salariés, pourquoi a-t-il accepté cette situation ? Est-ce que le rapport de force n'était pas favorable à Nexem ? Est-ce que la stratégie suiveuse de votre syndicat... Il y a quand même là un mystère. Pourquoi nous sommes dans cette situation ? Est-ce que c'est un manque de vision, manque de lucidité ? On pourrait mettre beaucoup de qualificatifs.
Alors, il faudrait poser cette question aux responsables actuels de Nexem. Hein ? C'est à eux de répondre en priorité. Ce que je vais dire là, c'est l'analyse que moi
j'ai. C'est votre analyse, votre analyse. Ce qui nous intéresse, c'est votre analyse.
Moi, je suis administrateur de Nexem, aujourd'hui dans l'opposition à la ligne... politique qui est celle de la majorité du conseil d'administration, l'analyse que j'en fais, elle est très simple. C'est une analyse culturelle. La direction, la gouvernance de Nexem sont dans une habitude, dans une tradition de discussion avec les pouvoirs publics et se sont historiquement toujours mis dans une posture consistant à décliner les décisions, les choix faits non pas par eux ou par le secteur,
mais par la puissance publique.
Faits par la puissance publique. Et quand la puissance publique dit « voilà ce qu'on a décidé », en l'occurrence d'indemniser, de reconnaître l'activité de certains et pas d'autres, eh bien, il n'y a pas de réaction, de révolte contre cette situation. Au contraire, il y a une réaction qui consiste à dire « bon, ben, on va expliquer à nos adhérents que c'est votre
Donc,
position ».
Donc, une sorte de résilience, on accuse le coup… Et puis on applique cette politique.
Une posture qui est une posture de supplétif des pouvoirs publics. Alors, cette posture-là a fonctionné pendant des années, à un moment où les politiques publiques pouvaient être plus généreuses, où il y avait un alignement des augmentations de rémunération, il y avait une reconnaissance du secteur qui était à la hauteur de la reconnaissance que les pouvoirs publics pouvaient avoir pour le secteur public hospitalier, par exemple, ou pour d'autres secteurs des politiques publiques. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et quand la position des pouvoirs publics devient une position malthusienne, restrictive en termes budgétaires, qui est une position de quasi-mépris, le mot a été...
Le mot est dans le tract, et beaucoup de salariés que nous rencontrons sur le terrain le disent. Oubliés et méprisés aujourd'hui.
Voilà, il y a eu les oubliés du Ségur, il y a eu les méprisés du Ségur, et il y a aujourd'hui les oubliés de l'inflation, hein, qui est la couche supplémentaire qui vient se rajouter. Parce que les oubliés du Ségur, c'est il y a 2 ans. En 2 ans, 10,1% d'inflation, c'est
10%,
les chiffres.
10%, voilà, 10,1. Ce sont les chiffres officiels, c'est 2020, clair. Personne ne peut le contester.
2022, 2023, on est à 10,1% d'inflation. Proposition des pouvoirs publics, acceptée par Nexem, le chiffre a été donné tout à l'heure, plus 1,3% à mettre en rapport des 10,1% d'inflation. Donc l'enveloppe octroyée est totalement insuffisante, c'est une misère. Hein, bon. Ça signifie une perte de pouvoir d'achat de 8 à 9%. C'est ça que ça veut dire pour les salariés du secteur. Et en plus, c'est 1,3%, comme le soulignait Madame Veil, c'est octroyé à 90% des professionnels, et pas à ceux qui sont en fin de carrière ou qui ont des responsabilités d'encadrement. Donc, à nouveau, une segmentation, une injustice perçue par le secteur. Donc, on distribue une misère et encore, on ne la distribue pas à tout le monde. Donc, ceux qui sont les doublement oubliés de l'indemnité des 183 euros et qui sont les oubliés de l'inflation, aujourd'hui, ils sont au bord de la révolte. Et ils sont en situation de demander des explications à leur organisation professionnelle.
Je disais en début d'émission une colère sourde qui monte petit à petit, une musique qui monte, mais vous êtes en train de me dire que c'est une colère très très forte et qu'il risque d'y avoir une véritable bombe sociale dans le secteur. Mais avant d'aller plus loin, notre pause musicale, et je vous propose Reggiani Maximilien.
Elle attend devant la caserne de l'aube au dernier feu du jour. Parfois le drapeau est en berne, mais jamais, jamais son amour. Elle guette un regard, un souffle, un pas, un geste, une ombre, rien. Mais ne croyez pas qu'elle souffre, elle aime. Et tout ce brouillard dans sa tête le soir a des parfums lilas. Le sergent de garde répète non, le lieutenant n'est pas là. Mais ce lieutenant, elle l'aime du fond de son rêve indigo. Plus qu'elle, plus que son père même, s'appelle Adèle Hugo. Et toi, devant la mer profonde, toi, poète et proscrit, tu sais qu'il existe hélas dans ce monde d'autres exils que Guernesey. Et toi, le rêveur solitaire, tu vois de ton regard géant qu'il existe hélas sur la terre d'autres gouffres que l'océan. Elle a oublié la rancune et l'amertume et le devoir. Elle n'est plus jamais quelqu'une que pour parfois l'apercevoir. Elle est une petite chose qui s'est tout abîmée en lui. Une lente métamorphose fait d'elle papillon de nuit. Et toi, devant la mer profonde, toi, poète et proscrit, tu sais qu'il existe hélas dans ce monde d'autres exils que Guernesey. Et toi, le vieux prophète triste qui a combattu l'échafaud, tu sens bien, hélas, qu'il existe d'autres morts que celles à la fosse.
Vous êtes la présidente de la DAPI des Landes, qui est une très très belle institution dans le département, une institution des Landes qui fait référence. Nous sommes Esprit Occitanie, merci d'avoir accepté de prendre la parole. Et nous parlions avec Madame Weiss, la déléguée régionale Nexem et directrice générale de l'Institut de formation Erasme, travail social. Monsieur Philippe Calmette, administrateur et président de la FISAF, et vous-même, vous êtes administratrice de Nexem. Et on abordait la question, il se passe quelque chose à Nexem, on a l'impression que ça ne va plus, une colère sourde qui monte, des adhérents mécontents de la politique menée, de plus en plus critiques, un dialogue social qui est à l'arrêt, et les partenaires sociaux qui quittent les tables de négociation. Madame la Présidente, quel est votre sentiment sur cette situation, vous qui êtes au cœur du conseil d'administration de votre syndicat d'employeurs?
Alors, dans ces propos, il y a énormément d'éléments, évidemment. Déjà, bon, en tant que présidente d'association, nous, on ressent les effets de mauvaises mesures gouvernementales. Alors, on va remonter encore un petit peu plus loin. On va peut-être reparler du Ségur, qui ont déjà mis un peu le feu aux poudres. On sait que nos salariés ont donné beaucoup de leur temps, ont changé, adapter leur façon de travailler pendant la crise du Covid, et pour autant, les remerciements, la reconnaissance n'était pas là. Alors déjà, on commence comme ça, et derrière, effectivement, on voit que pour nous, la fédération employeur n'a pas forcément pris ce que nous estimons être le bon chemin pour arriver à une nouvelle, effectivement, une CCU, donc une convention collective unique étendue, qui est nécessaire, attention, mais qui, comme a dû vous le dire Philippe, ou vous le dira Philippe, est un outil, c'est un outil indispensable pour gérer les emplois dans nos structures.
Voilà, convention, tous les employeurs et tout le monde associatif de l'économie sociale et solidaire considèrent en effet qu'il faut une convention et qu'il faut une bonne convention pour permettre de travailler et reconnaître l'ensemble des salariés à leur juste mesure. Ça, c'est votre demande.
Tout à fait. Et donc, on a, si vous voulez, dans tout ce qui s'est passé depuis le Ségur, donc on va dire 2 ans, nous voyons surtout le pouvoir d'achat suite aux événements aussi mondiaux, européens, hein, bien sûr, le pouvoir d'achat des Français et donc de nos employés, salariés, du médico-social, très diminué. Et nous voulons lutter pour ça, en fait. Et déjà, c'est vraiment quasiment notre objectif primaire, premier, déjà de travailler pour ce pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire travailler avec nos partenaires sociaux, ça veut dire travailler avec le gouvernement et avoir peut-être un dialogue différent avec eux pour essayer de revaloriser, en tout cas, les salariés et tous les salariés, puisque, on le sait, il y a quelques discriminations depuis ce fameux Ségur. Voilà, et on n'arrête pas, et même notre fédération continue à faire et à engager des discriminations salariales envers les types de secteur social. Donc ça ne va pas, ça ne nous va pas. Voilà.
Dans la région Occitanie, vous êtes dans la région Occitanie, en rencontrant les associations, on sait qu'il y a des difficultés de recrutement, qu'il y a parfois de la pénurie. On sait également que pour l'atterrissage des comptes des associations qui seront pour beaucoup, dans beaucoup de secteurs en déficit. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, vous qui êtes dans les Landes, vous qui discutez avec les présidents et les présidentes, vous avez le même sentiment, des inquiétudes graves, des difficultés financières?
Alors, d'abord des difficultés financières, puisque je pense que la majorité de nos associations dans les Landes, mais également en Nouvelle-Aquitaine, vont présenter bien sûr des résultats négatifs, mais vraiment très négatifs. En fait, c'est vraiment les premières années où on n'arrive pas à un équilibre en fin d'année. On a parlé là des problèmes de recrutement. C'est aussi une des conséquences de toutes ces mesures depuis 2 ans et effectivement d'une fédération qui n'arrive pas à contrecarrer cela. Et puis en plus, il faut le reconnaître, nos secteurs sont en pleine transformation avec un S. C'est-à-dire qu'il y a la transformation écologique, la transformation de l'offre, mais également forcément la transformation du modèle économique avec effectivement des demandes gouvernementales. Donc ça peut être à nos niveaux, ce sont les conseils départementaux, les ARS, mais qui nous font des demandes spécifiques et donc on voit bien que tout se transforme. Donc il y a des tensions un petit peu partout, on a eu des fuites de salariés, comme le sanitaire d'ailleurs, hein, des salariés qui ont changé de métier, et pourtant nos métiers ont du sens, donc c'est pas parce qu'ils ne trouvaient plus de sens à leur métier, c'est que vraiment, il y avait un problème sur la reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est primordiale dans nos métiers. On est dans des métiers de l'humain, si l'État, le gouvernement, la société ne reconnaît pas ces métiers-là, c'est une société de demain qui va manquer d'accompagnement, qui va manquer de personnes qui ont des métiers fantastiques, qui ont des métiers avec plein de valeurs humaines. Et c'est hyper important pour les personnes que nous accompagnons. Encore une fois, c'est toujours eux qui sont au centre de nos dispositifs. N'oublions pas les personnes que nous accompagnons qui ont besoin d'un accompagnement de qualité, respectueux de leurs droits. Et vous le savez, qui va aussi vers l'autodétermination. Mais cela s'accompagne, ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir en face des offres, il faut avoir avec eux des personnes qualifiées, professionnelles, comme nous avons aujourd'hui. Mais nous avons de gros problèmes de recrutement. Oui, c'est très compliqué, très compliqué.
Madame la présidente Christine Blandinière, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 ou 3 mots votre association ADAPI dans les Landes, c'est combien de salariés, combien d'établissements et vos spécificités?
Alors, nous, l'ADAPI des Landes, c'est un peu plus de 350 salariés. Nous accompagnons maintenant avec les services que nous avons développés un peu plus de 1000 personnes accompagnées. Et nous avons une 20aine d'établissements et structures.
Voilà. Et bien entendu, services annexes également.
Voilà.
Bien, écoutez, merci Madame la Présidente Christine Blandinière. Nous continuons le débat en direct sur Esprit Occitanie, l'émission Sentinelle d'Humanité, avec Madame Weiss et Monsieur Philippe Calmette. Mille merci en direct, donc Esprit Occitanie. Merci Madame la Présidente.
Merci à vous.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, Madame Weiss, là. Voilà ce que dit une présidente. Vous êtes en activité également. Ce poste, s'il n'y a pas de réponse, vous allez faire quoi? Vous allez acheter un tracteur? Vous allez monter sur Paris?
Non, je ne crois pas.
Parce que j'ai vu passer dans les réseaux, et certains éducateurs se sont amusés, des gens du métier, assistants sociaux, disant, au lieu d'avoir des voitures de fonction, peut-être devrions-nous demander des tracteurs de fonction. Alors, que faites-vous, Madame la directrice?
Alors, nous,
et déléguée régionale?
Ça fait quand même plusieurs années, ça fait maintenant au moins 5 ans qu'on se bat en Occitanie en disant qu'on n'est pas entendu par les pouvoirs publics, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons perdu, le SMIC a pris 40% à peu près en 20 ans, et je crois que la 66 a pris 18% d'augmentation. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on avait fait ces calculs-là, c'était en début d'année ou fin d'année 2022. En 2023, le SMIC a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on a la majorité des salaires de début de grille qui sont sous le SMIC. Donc, les gens sont quand même payés au SMIC, mais avec des rappels de salaire sur leur ligne, sur leur bulletin de salaire. Ce qu'on va faire, on va se mobiliser. On est en démocratie. Donc, nous, employeurs, puisque moi, je représente les employeurs du secteur Occitanie, ben, on va se mobiliser lors de l'Assemblée Générale. Nous, on a un syndicat employeur qui est censé nous représenter. Aujourd'hui, on lui dit, vous ne nous représentez pas. Il ne prend pas la peine de communiquer avec la région Occitanie. Et j'entends par ailleurs qu'il n'y aurait que l'Occitanie qui serait mécontente.
L'Occitanie qui serait une terre radicale, c'est
oui,
ça
c'est
qu'on
ça.
Est en train de
nous
vous dire.
Nous sommes les Gaulois du social. Non, pas du tout. Il n'y a pas que l'Occitanie. Les Pyrénées-Atlantiques sont très mécontents aussi, sont en train de s'organiser. Les gens de l'Est, Grand Est, peuvent être aussi très mécontents. Ce que je ne comprends pas, c'est que notre syndicat employeur ne voit pas notre colère, n'entend pas qu'on n'en peut plus des usines à gaz qu'ils peuvent nous sortir, parce que c'est encore une usine à gaz, c'est 1.3, qu'à aucun moment, ils disent « on vous êtes représenté par un conseil d'administration ». Peut-être, mais peut-être pas non plus, puisque nous, on s'aperçoit que le conseil d'administration, qui est élu aujourd'hui, excusez-moi Monsieur Calmette, mais moi je le dis, le conseil d'administration qui est élu aujourd'hui, ne nous représente pas. On n'a pas l'impression d'être représenté. Alors, je n'ai rien contre eux. Ce sont des collègues à moi, hein, ce sont des pères à moi. Ils sont aussi directeurs généraux de petites et de grosses associations. Mais nous, en Occitanie, on a des directeurs généraux de 2000 salariés, des directeurs généraux de 50 associations de 50 salariés. Et on est tous pour dire d'accord. Nous ne nous sentons pas représentés par le conseil d'administration et la direction générale de Nexem.
Alors, depuis que vous avez lancé votre poste, vous avez des messages qui vous ont arrivé, des témoignages de directeurs qui le disent très très concrètement. Peut-être rapidement un message si vous l'avez là, que vous pouvez nous lire quelques éléments pour montrer que en effet c'est bien le terrain qui parle et la vérité vient du terrain. La vérité vient du terrain. Peut-être est-il nécessaire de le rappeler.
Donc moi là je lis le message d'un directeur général d'une ADAPI
de la région
ouais. qui dit et qui s'adresse à la délégation régionale bonjour qui pouvait croire qu'une énième usine à gaz allait satisfaire les syndicats. Du côté salarié, on est de même. Les cas des associations hiérarchiques ou techniques, oubliez du Ségur, oubliez des revalorisations, devant se contenter de 3% quand l'inflation a dépassé les 10%. En cumulé des métiers complexes à recruter, car pas attractifs sur le plan financier, mais aussi des dits très difficiles à assumer dans des contextes de transformation de l'offre, comme on a entendu tout à l'heure. Sans moyens, des salariés sont épuisés, démotivés. Il n'y a plus de sens au travail, on n'arrivera plus à recruter.
Donc, la situation qui commence à être grave. Oui, merci. Je sens qu'il y a de l'émotion et de l'enthousiasme dans votre prise de parole. Monsieur Calmette, président de la FISAF et membre du conseil d'administration, en disant « Oui, je suis au conseil d'administration, mais en même temps, je fais partie de l'opposition. C'est la démocratie qui s'exprime. Vous continuez à construire. Que fait-on quand on a entendu ces messages, quand on entend une présidente dans une autre région ?» Et on pourrait prendre d'autres régions un peu partout sur le territoire. Ça chauffe, pourrait-on dire. Alors, que faire, monsieur le président?
Oui, ça chauffe. Ça chauffe à juste titre. Alors, dans ce qui chauffe, je voudrais rajouter un autre élément que ceux que nous avons évoqués, qui sont importants, très importants, c'est la situation des professionnels du secteur. Mais ce qu'on a décrit, c'est aujourd'hui des professionnels, vous l'exprimiez très bien, Madame Weiss, qui quittent leurs services et qui quittent leurs établissements. Nous sommes sur les métiers de l'accompagnement des personnes en situation de fragilité. Nous sommes aujourd'hui avec un taux qui vient de dépasser les 10% de postes non occupés, France entière. On est au-delà des 10%. Et je ne parle pas des faisants fonction. La conséquence de cela, c'est quoi? C'est que tous les nouveaux projets,
sont bloqués.
Création d'un service, création d'un établissement,
sont arrêtés, complètement stoppés.
Parfois faute de financement, mais souvent faute de personnel pour les ouvrir. Le secteur de l'aide à domicile estime aujourd'hui qu'il y a 120 000 solutions pour des personnes vieillissantes, accompagnées à leur domicile, par exemple, 120 000 solutions pour les personnes âgées, qui ont des financements des conseils départementaux, mais qui ne peuvent pas être honorées faute de personnel. Prenons un exemple très concret pour illustrer cette situation. Une infirmière, au bout de 3 ans d'ancienneté, dans la convention collective 66, a une rémunération mensuelle inférieure à 2000 euros. La même infirmière, dans une autre convention collective ou à l'hôpital public, a une rémunération qui est supérieure de l'ordre de 600 euros.
Ça commence à faire.
Eh bien, quand vous avez la possibilité, alors que votre rémunération est à 1900 euros par mois, d'avoir, en faisant 10 kilomètres, aller travailler dans un établissement où on vous propose 2500 euros, ben, malgré l'attachement que vous pouvez avoir à votre métier, à votre institution, à votre établissement, eh bien, il y a un moment où vous franchissez le pas.
Les économistes disent que les salariés sont aussi des agents économiques rationnels.
Et donc, quand vous êtes confronté à cette situation de pénurie, de départ des professionnels, qui est la conséquence du mépris qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, les premières victimes, ce sont les personnes fragiles. Ce sont les personnes âgées, handicapées, à leur domicile, les personnes handicapées qui attendent la création d'un service, d'un dispositif, d'une plateforme, qui ne voient pas le jour parce qu'il n'y a pas des professionnels à mettre en face. Et ça, c'est un point essentiel. Et quand on veut défendre les professionnels, et j'en viens à votre question, quand on veut défendre les professionnels, la meilleure manière de les défendre, c'est d'être porteur d'une ambition pour les personnes fragiles que ces professionnels accompagnent. Il faut redonner du sens à ces métiers, parce que les métiers, Madame Blandinière le soulignait très bien, les métiers évoluent avec la crise sanitaire, ils ont changé de nature. On travaille différemment, on accompagne différemment. Bon. Si vous ne défendez pas les droits des personnes fragiles que vous accompagnez, alors vous avez beaucoup de mal à faire reconnaître la légitimité des revendications salariales des professionnels d'un secteur. Et quand vous posez votre question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les intérêts des professionnels soient pris en compte? Eh bien, il faudrait d'abord porter une ambition pour les personnes fragiles de notre secteur. Parce que c'est en portant cette ambition, en portant un discours de société plus humaine, plus solidaire, permettant à ces personnes en situation de fragilité d'accéder aux droits communs, pour les enfants handicapés d'aller à l'école ordinaire, pour les personnes handicapées qui en sont parfaitement capables d'aller travailler en milieu ordinaire, d'accéder à la cité, au sport, aux loisirs, à la culture. Si on ne porte pas ce projet de société pour les personnes en situation de fragilité, ben on est difficilement audible quand on va défendre et porter les intérêts des professionnels du secteur. On apparaît comme les défenseurs d'intérêts catégoriels. Parce que l'opinion ne voit pas ce qu'il y a derrière nos métiers et nos activités, qui sont pourtant des métiers essentiels pour une société solidaire, humaine, équilibrée. Et tenir ce discours en faveur des personnes les plus fragiles, c'est indispensable. Il y a 15% de la population qui est en situation de fragilité.
Et vous l'avez dit. Un
chiffre que tout le monde reconnaît.
Tout le monde peut retenir.
La différence aujourd'hui, entre il y a 10 ans ou il y a 20 ans en arrière, c'est que pour remettre ces 15% de la population en situation de fragilité, il faut faire aujourd'hui beaucoup plus d'efforts pour les remettre dans la société, dans le droit commun. Il faut faire beaucoup plus d'efforts qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Les fossés se creusent.
Les inégalités se creusent également. Voilà. Les chiffres de l'INSEE sont clairs.
Et cette réalité-là pousse justement à, si on la met en avant, si on défend ces fragilités des publics que l'on accompagne, alors là, naturellement, la prise en compte des revendications, des besoins, des enjeux de rémunération, d'attractivité du secteur pour les professionnels sont prises en compte. à la fois par les pouvoirs publics, mais aussi par l'opinion. Donc ce qu'il faut commencer à faire, c'est ça. Hein, c'est bien pointer les conséquences de cette situation de mépris des professionnels, qui est une conséquence pour l'ensemble de la société française. Ce n'est pas qu'un intérêt catégoriel.
Et notre invisibilité. Excusez-moi, parce que voilà. Aujourd'hui, quand même, je rappelle qu'on est le 2 février 2023, nous n'avons toujours pas de secrétaire d'État nommé à notre secteur, et nous avons perdu un ministre. Nous n'avons pas de ministre.
C'est-à-dire que dans la théorie des signaux faibles, ce sont des signes très forts, plutôt.
Exactement. Aujourd'hui, nous étions déjà des invisibles, mais aujourd'hui, je ne sais plus où on est.
Alors, face à cette situation, il me semble que j'ai relevé par là un verbatim d'un délégué régional Occitanie en disant dans une colère froide « il faut peut-être renverser la table ». Faut-il renverser la table ou y a-t-il des alternatives, Monsieur Philippe Calmette, président de la FISAF, avec d'autres personnes que vous participez, vous rencontrez, où en sommes-nous, parce qu'il va falloir quand même sortir de l'ornière.
Alors, ce que
on ne peut pas rester dans cette situation.
Ce que porte la fédération dont je suis le président et le porte-parole, en quelque sorte, au sein du conseil d'administration de Nexem, c'est deux choses. D'abord, la nécessité pour Nexem d'écouter ses adhérents.
Ça, pour le moins, ça me semble une évidence. Alors, il y a des témoignages qui ont été exprimés.
Voilà. Alors, comment on fait pour écouter ces
méthodes, méthode de travail.
Méthode, nous proposons la réunion des états généraux du secteur social et médico-social pour recueillir les attentes, les ambitions, les souhaits, les priorités des adhérents. C'est la première chose. Une organisation qui représente un secteur, elle est le porte-parole, elle est la représentante de ses adhérents. Et une fois qu'avec les adhérents, on s'est bien accordé sur des priorités, sur un discours politique, alors à ce moment-là, on va ensemble se mobiliser et se battre auprès des pouvoirs publics pour obtenir les réponses. Dans un monde où, on le voit tous les jours, les décisions sont de plus en plus radicales, et où la radicalité envahit
le monde et la négociation.
Le débat public. Le débat politique. Il faut, malheureusement, alors on peut le regretter. Moi, je suis plutôt un homme, je suis un homme de dialogue, de consensus, etc.
Il me semble, M. Calmette, simplement pour notre culture générale, qu'il y avait un grand homme politique, Mendès France, qui disait que même dans un débat même s'il est dur, mais le débat doit être esthétique. Parfois, l'exemple qu'on donne de la représentation nationale, elle n'est pas pour le moins esthétique.
Voilà. Donc,
radical. Vous avez peut-être raison de le dire.
Il faut revenir à des fondamentaux basiques de bon sens. Une fédération qui représente des associations, eh bien, d'abord, elle consulte ses adhérents et ensuite, elle porte ce que ses adhérents souhaitent qu'elle porte auprès des pouvoirs publics et on se bat auprès des pouvoirs publics, avec les adhérents à côté de nous, avec, si possible, et là je pense qu'en l'occurrence c'est parfaitement possible, les organisations syndicales de salariés, ensemble, on monte au créneau pour obtenir les financements, pour obtenir satisfaction. Ce n'est pas qu'un enjeu de financement, c'est aussi un enjeu de reconnaissance. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire de
sous. Ce n'est pas qu'une histoire de sous.
Les enjeux autour de l'amélioration de la situation des personnes en situation de fragilité sont des enjeux qui portent sur les droits, sur l'organisation de notre administration, sur la reconnaissance des droits, sur le décloisonnement des différentes administrations, des différents financeurs. C'est un sujet très complexe qu'il est vraiment réducteur, je le souligne, de ramener à des enjeux catégoriels. Hein, il faut porter une ambition pour un secteur qui est une ambition protéiforme, hein, avec différents enjeux.
Donc, discours et la méthode, vous dites d'abord un discours, une vision, les états généraux, ensuite.
Et ensuite, prendre à bras le corps les enjeux immédiats qui, pour notre secteur, sont des enjeux de pouvoir d'achat. Cette hémorragie de professionnels, cette perte de 10% de pouvoir d'achat, le décalage entre les 1,3 l'aumône faite par les pouvoirs publics et l'évolution de l'inflation, il faut ouvrir d'urgence des négociations, et nous appelons à cela, entre nos organisations employeurs, Nexem et la FEAP, exclusivement sur le sujet du pouvoir d'achat, pour permettre une indexation de la valeur du point et des rémunérations sur l'inflation. Il faut qu'on rattrape dans un premier temps ces 10% d'inflation que tous les professionnels du secteur sont en train de subir et qui entraînent l'hémorragie que l'on décrit. Ça, c'est l'urgence. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'essayer de travailler sur une convention collective unique étendue. Mais ce sont deux sujets différents. Il y a une négociation de long terme et de moyen terme sur la convention collective unique et une négociation urgente qu'il faut ouvrir avec les organisations salariées sur le pouvoir d'achat.
Vous rendez Madame Weiss, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Je voudrais juste dire que pour la première fois, la CFDT n'a pas signé l'accord.
Alors qu'en principe, c'est un syndicat plutôt modéré qui signe.
Et qu'ils vont toujours quand même dans le sens de la négociation. Et
ils essaient de construire.
Voilà. Et jusqu'à présent, la CFDT a signé pratiquement tous les accords qui ont été, qui sont sortis ces dernières années, tant sur Access que sur Nexem et FEAP. Voilà.
Alors, c'est intéressant pour nos auditeurs parce qu'on a cité Nexem et on a dit que c'était la convention 506 et on a parlé de la FEAP. Peut-être simplement pour nos auditeurs, la FEAP, c'est la fédération.
Oui,
c'est important qu'on puisse dire c'est une autre convention voilà, et aujourd'hui il y a un regroupement pour la négociation.
Quelques chiffres.
Un peu de pédagogie.
Quelques chiffres pour qu'on comprenne bien notre secteur. Donc le secteur accompagnement des personnes en situation de fragilité. 1 million de salariés, on l'a dit tout à l'heure. 350 000 salariés sont à la convention collective 66. 300 000 sont à la convention collective 51. Alors, la convention collective 66 est représentée par Nexem, syndicat d'employeurs. Ceux qui sont à la convention collective 51 sont représentés par la FEAP. Donc, 350 000 plus 300 000, ça fait 650 000. Vous parlez d'un million. Où sont les autres ?
Ah, où sont les autres ?
Ils sont nulle part.
D'accord.
Ils ont des accords d'entreprise. Ils n'ont pas d'obligation d'être dans une convention. Voilà. Ou simplement, ils ne sont pas adhérents d'une organisation tout en appliquant la convention collective. Donc, quand on parle d'Access, c'est la volonté d'avoir une seule organisation de branche qui chapeaute, couvre, protège l'ensemble des salariés, c'est-à-dire les 1 million de salariés, du secteur. Et donc, Nexem, 350 000, FEAP, 300 000, se sont mis d'accord pour se réunir dans une confédération, qui est la confédération Access, de manière à ce que cette confédération puisse signer des accords qui vont être étendus et qui vont couvrir le million de salariés du secteur. Voilà le...
C'était important pour avoir la clair. Ça me semble c'est clair, bien. Tout à fait, monsieur Calmette. Mais on n'est pas là, hein. On a l'impression que ça patine. D'un côté, ça chauffe, que ça patine.
On recule.
Qu'on a l'impression que l'on recule. Et d'où cette colère sourde. On arrive au terme de notre émission. Vous avez vu, 1 heure. Les enjeux sont terribles. Quelles vont être les étapes? Est-ce qu'il y a des dates dans le calendrier, des dates clés pour dire peut-être à nos adhérents, à nos auditeurs qu'il y a un peu de lumière, qu'il y a un horizon, que les nuages ne s'amoncellent pas, mais que les nuages disparaissent?
Moi, je pense à la continuité de ce que nous avons dit les uns et les autres au cours de ce moment d'interview. On est d'accord pour constater un mécontentement général qui est en plus en train de s'étendre. Bon. Il faut, dans un moment comme celui-là, un mécontentement qui s'étend, des associations qui ne sont pas entendues, eh bien, il faut que ceux qui portent des solutions alternatives, états généraux, ouverture immédiate d'une négociation sur le pouvoir d'achat, se regroupent, s'organisent, se fédèrent pour faire entendre une autre stratégie, une autre méthode, une autre ambition. Et je crois qu'on est dans ce moment-là. Et la prochaine étape, puisque vous me questionnez sur les étapes, c'est celle du regroupement, de ces mécontentements, mais pas pour exprimer une colère, pour exprimer des propositions. Et les propositions, on les connaît. On les connaît et on les dégagera à condition... justement, d'écouter. C'est de la démocratie participative. C'est de l'écoute avec ses adhérents. C'est l'ambition des États généraux. Voilà, on est dans ce moment-là.
C'est un moment crucial. Hein.
C'est un moment crucial où ceux qui sont mécontents et qui portent des alternatives... le mécontentement, c'est un début, c'est jamais une fin en soi. Il faut porter des solutions, des méthodes, des stratégies différentes. Pour cela, il faut se regrouper et se fédérer. Et je pense qu'on est dans un moment où ces regroupements vont se faire.
Moment de, comme on dit, moment de crise, mais moment de crise, c'est souvent le moment d'imbasculement. Les philosophes appellent ça le moment kairique, c'est le kairos. Merci, Madame Weiss, pour votre parole toujours libre et enthousiaste et sans tabou. Monsieur Calmette, merci beaucoup pour votre discours. Merci pour l'humanisme que tous les deux représentez avec un engagement désintéressé pour le secteur, les salariés de ce secteur et également les associations que vous accompagnez. Mille merci de votre participation, Sentinelle d'Humanité, Esprit Occitanie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci, chers amis.